Dans ce bain de culture, une immersion dans le monde des arts du cirque avec les 20 ans de l'école Chemsi à Salé, deux week-ends dans la ville des Corsaires pour voir quelle route a été parcourue depuis deux décennies. La BD aussi dans tous ses états, en ce moment au Maroc, de Casablanca en passant par Alger, Tunis, jusqu'au Caire, Bagdad ou bien Beyrouth et même jusqu'en Syrie. Eh bien, ce sont des artistes qui forment aujourd'hui ce que l'on appelle une nouvelle génération de la bande dessinée arabe. Une nouvelle génération que l'on peut rencontrer et admirer sur tous leurs planches. Ça va se passer à Oujda en ce moment et surtout à la gare de Rabat Agdal. Et puis au Maroc, une nouvelle étoile dans le ciel de Marrakech. Le Festival international du film a donc récompensé hier le film colombien Valley of Souls, le grand prix de l'étoile d'or, donc de la 18e édition du FIFM. Merci d'être avec nous ce dimanche sur Média 1, c'est Bain de Culture. Et ça commence en musique.
Chateau Mamon.
et Julia Stone sur Medellin pour pousser ce dimanche la porte d'une école, mais alors pas du tout comme les autres. Au Maroc, mais oui, l'école du cirque de Salé. Alors une quarantaine d'apprentis, il y a des garçons, il y a des filles, il y a un peu plus de garçons, mais voilà, les temps changent, donc peut-être que les filles viendront un petit peu plus. En tout cas, lorsque ces apprentis sont admis, eh bien la formation dure 3 ans, une belle histoire qui est née, elle, il y a plus de 2 décennies.
Bain de culture avec Florence Blanc.
Ce dimanche matin, nous allons du côté de Salé, au Maroc. Nous sommes avec Alain Laéron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général de l'École nationale de cirque Chemsi, du cirque Chemsi tout court. Alors cela fait 20 ans, Alain Laéron, 20 ans que vous portez évidemment ce projet d'école de cirque. Moi, ma première question, c'est comment on se sent après tout ce chemin parcouru? On imagine tous ces efforts, ces montagnes que vous avez franchies, des espoirs déçus aussi et beaucoup, beaucoup d'optimisme. Moi, je voulais juste savoir comment vous, en tant qu'homme, devant cette action magnifique que vous faites depuis 20 ans, eh bien, comment vous vous sentez?
Eh bien, écoutez, on se sent exactement comme au premier jour. Donc, avec le sentiment d'avoir effectivement parcouru du chemin, mais en même temps, une grande nécessité à agir au jour le jour et dans la construction de projets à venir, puisque d'une part, effectivement, le projet est quand même principalement une école qui s'est professionnalisée au fil des années, qui est devenue École nationale de cirque en 2009 et qui forme des artistes qui sont diplômés et qui travaillent désormais à travers le monde. Mais en même temps, une école d'art, c'est jamais complètement installé. Ça peut exister, mais ça doit continuellement se remettre en question parce que autrement, on s'endort sur un processus qui devient une routine, et la routine, c'est mortel dans le domaine de la créativité, parce que ça n'apporte plus les ingrédients de la remise en question, du changement des esthétiques, du changement des personnes qui rentrent en formation et qui elles-mêmes apportent du nouveau dans leur perception du monde, dans leur interprétation de la réalité, et du coup, dans ce qu'elles proposent comme création, comme nouvelles écritures, comme nouveaux projets artistiques pour le territoire.
Alors Laéron, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est que vous dites « ça fait 20 ans, je suis comme au premier jour ». On va peut-être vous demander quel a été le déclic en fait. Est-ce que c'est parce que vous êtes arrivé un jour à Salé et que vous avez vu peut-être des gamins, comme on dit, qui étaient sur la plage à faire ces acrobaties qu'on voit encore au Maroc sur certaines plages marocaines ou certaines places, hein. Quel a été le déclic de dire « allez, je fonce vers cet immense projet que vous avez mis en place » ?
Alors, il n'y a pas eu de déclic en fait. Il y a eu un chemin. Voilà. Et ce chemin qui m'a conduit dans les années 90 à diriger l'Institut français de Fès au Maroc, à avoir du coup une proximité avec la culture marocaine et avec les enjeux de la coopération, j'ai retrouvé cette question de la culture marocaine et des projets qu'on pouvait y monter via l'Académie Fratellini qui était l'opérateur chez lequel je travaillais, en charge notamment de la formation professionnelle et du CFA des arts du cirque.
Mmh. Donc vous étiez dedans jusqu'au cou déjà.
Et de la coopération, j'étais déjà dedans, voilà.
Oui, bien sûr.
Et du coup, cette coopération internationale nous conduisait à accompagner le jeune projet Chemsi au Maroc, qui lui s'était développé et avait très rapidement connecté ses perspectives de développement avec celles de l'Académie Fratellini. Il y avait un directeur général qui s'appelait Laurent Gachet et qui était lui-même conscient de ces enjeux internationaux pour le développement respectif des projets, que ce soit celui de l'Académie Fratellini ou celui de Chemsi. Et donc cette carte qui était jouée et qui nous rassemblait dans des projets communs, puisque le premier Caracena en 2006 a justement mis en convergence les ressources de l'Académie Fratellini et celle de l'école de Chemsi, ont permis de gravir progressivement les différents enjeux qui se posaient pour une jeune école au Maroc qui formait des artistes de cirque alors que la profession n'existait pas vraiment. Il y a une tradition acrobatique, mais il n'y a pas de profession
d'artiste de cirque.
Voilà, il n'y avait pas d'école et c'était la première école. Voilà, les objectifs étaient de dire à la fois, il y a une jeunesse qui n'a pas ou difficilement de levier pour se former, apprendre les métiers artistiques, que ce soit la danse ou le cirque. Et donc, il y a la possibilité, dans cette Casbah des Gnawa, d'imaginer un projet de formation, des résidences d'artistes qui insèrent par le sensible, et c'était déjà l'origine du projet qu'on continue à développer aujourd'hui à Salé et qu'on développe aussi maintenant dans la Médina de Fès, à Hammer dans le rural, où l'idée est de toucher la jeunesse par la dimension sensible que l'art procure, et cette pratique est structurante pour les individus et permet à certains, ceux qui en ont le talent, les capacités et la motivation, de travailler pour acquérir les compétences qui seront ensuite valorisées dans leur carrière professionnelle, nationale et internationale.
Je venais à Karassina pour montrer des gens de Salé, montrer des gens du Maroc, il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les Italiens, il n'y a pas que les Européens qui font ça. Il y a même des Marocains qui font, ils sont capables de faire, ils font ça avec toi.
L'abordage de la ville va donc débuter en 2006. Le rythme ensuite s'est imposé de lui-même. Un rendez-vous, oui, mais tous les deux ans, une biennale pour pouvoir travailler, fabriquer des projets, que ce soit avec les artistes de l'école, dans le cadre de la formation professionnelle. Certains autres circassiens viennent d'Europe. Tous les deux ans, le public en tout cas est au rendez-vous. Les gens de Salé, les gens de la Casbah des Gnawa. On y revient dans un instant.
J'ai vu quelque part, rafraîchissez-moi donc la mémoire. Extasié devant une toile de Vixen à Rome, Londres ou Rennes. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, Café Reggio, je suppose. En plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos. Accoudé à un bar, vous m'appeliez. Vous en avez de bonnes à Lisbonne, de Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon, pourvu qu'il soit le bon. Sur d'experts toboggans, vous m'avez vu glisser, mais glisser avec délice. Certes. Oh, j'aime tout. Je veux goûter à vous. Oh, j'aime tout. Je veux me donner à vous. Avant que je m'en aille, avant mes funérailles, de la vie faire rivaille, avant que je m'en aille. Les flèches que Cupidon m'a décrochées n'étaient que des haches dans le dos, et si j'ai rampé tout en bas, j'ai surfé aussi tout là-haut. Hop, j'enchaîne. Du lever du soleil brûlé jusqu'au matin crème. Se frotter à tout ce qui bouge, de balanceuse en bouge. Non, je n'épargnerai ni moi ni personne. La fièvre n'est pas un nom mais un dû.
mais provoque de cette foutue ville, oh, de certains hyper hostiles. Mais moi j'avoue que ça me tente. Mais je n'ai pas le rouge au front, et je ne suis pas sur le flanc, et je ne suis pas si mauvais. Non, je ne suis pas si maudit. Les 20 ans sans te voir, je m'en mange à brèche. Du lever du soleil briller jusqu'au matin grège. Avant que je m'en aille, jouer à qui perd gagne, et de la vie faire ripaille. Avant que je m'en aille, et ma ligne de fuite s'est brisée pour me mettre à la colle tes 22 étés. J'abandonne aujourd'hui mes attractions désastres, et tu viens avec moi faire l'avion.
Étienne Dao en tournée en ce moment, après être passé à Rennes, la ville de ses tout premiers succès. Eh bien, il sera à Brest, en France, en Belgique ensuite. Il va terminer son année 2019 à Paris. Ce sera la salle Pleyel. Il reviendra dans la capitale à la fin du mois de janvier. Et ce sera à l'Olympia. Dans ce bain de culture, nous nous sommes à Salé, au Maroc. Nous sommes avec Alain Laéron, le directeur de l'école du cirque Chemsi à Salé. Elle existe depuis 20 ans. C'est devenu une école nationale depuis 10 ans. Une quarantaine d'apprentis y sont en formation en ce moment pour 3 ans. L'école propose des spectacles chaque année, comme en ce moment. Nous allons y revenir dans un tout petit instant. Mais auparavant, l'école Chemsi, eh bien, c'est le pivot tous les 2 ans. L'été de la Biennale Caracena, qui investit de très nombreux lieux de la ville en collaboration avec des artistes étrangers. La prochaine, ce sera du 22 au 29 août prochain, ce sera en 2020. Mais auparavant, je vous le disais, large coup d'œil sur ce mois de décembre à Salé.
Avec Florence Blanc.
On va parler de ce qui se passe ces deux week-ends. Parfois, il crie contre le vent. Ça, c'est ce week-end. Ça se termine ce dimanche. On va peut-être regarder ce qui se passe le week-end prochain avec, à partir de vendredi prochain, la Rose des Vents. Là, c'est les artistes de l'École nationale du cirque Chemsi qui sont en collaboration avec des musiciens de la compagnie Aksak sur une chorégraphie d'Aïcha Awad. Alors, j'insiste dessus parce que le samedi 14 décembre, donc la semaine prochaine, vous faites une soirée pour lever des fonds. Lever des fonds, c'est-à-dire de l'argent pour faire vivre l'école.
Déjà, le projet La Rose des Vents, c'est un projet comme on en fait maintenant parce qu'on s'est aperçu que c'était utile et important. C'est-à-dire qu'on imagine un projet encadré par un artiste. En l'occurrence, c'est Aïcha Awad, qui est chorégraphe, qui est native de Salé et qui travaille maintenant principalement dans la région de Montpellier, d'Aix, dans le sud de la France, en voyant les Caracena. Elle a eu envie de partager ce qu'elle avait appris avec ces jeunes artistes en devenir. Le projet s'est poursuivi puisqu'il avait de la valeur et de la qualité. On a continué à le faire grandir. Il a été accueilli au mois d'octobre à Aix-en-Provence, en France, pour 3 représentations qui ont déclenché l'enthousiasme du public et des opérateurs aussi artistiques en France. Du coup, le projet a été encore invité au mois de février à Istres, dans le cadre du festival Les Élancés, au théâtre.
Toujours dans le sud de la France.
Toujours dans le sud, oui, pour l'instant, mais il n'est pas impossible que ça aille dans d'autres contrées. Et du coup, on continue à faire mûrir cette forme qui alimente la formation autant que la formation la nourrit. Ce que je viens d'expliquer, je pense, montre que les allers-retours constants supposent de la réactivité, de l'écoute des artistes et qu'on est vraiment à leur service pour les accompagner et les faire éclore. Cette écoute particulière suppose aussi des moyens, parce qu'un projet comme celui-là...
Nous y arrivons.
Et voilà, évidemment, les gens travaillent, on a besoin de toute la dimension artistique, de création, l'accueil des musiciens, musiciens qui sont des professionnels et qui viennent aussi porter donc toute la dimension chorégraphique avec des musiques qui proviennent du pourtour méditerranéen, de l'Europe de l'Est, des consonances africaines, etc. On a beaucoup d'intervenants. Un projet comme celui-là, par exemple, c'est déjà 12 artistes sur le plateau, la chorégraphe, la régie, son, lumière. Et donc, nous devons absolument nous emparer de cette question-là et l'intégrer à notre activité. C'est pour ça que, au-delà du travail de sponsoring qu'on essaye de développer dans le cadre de Caracena, du travail aussi de conventionnement qu'on essaye de valoriser au niveau de la formation professionnelle, il y a des ressources qui peuvent provenir de mécènes, d'entreprises, de particuliers qui trouvent que ça a du sens d'encourager la jeunesse à se former par le sensible, par l'artistique. Et le travail qui est mené depuis justement 20 ans montre la pertinence de ce type de projet. Pour que le projet dure, il faut que les ressources de ce projet soient diversifiées et les soirées de gala en font partie.
D'accord. Voilà. Bah écoutez, merci pour cette rose des vents que vous proposez donc le week-end prochain. Ce sera les 13, 14 et 15 décembre. Alain Lahéron, je vous remercie infiniment et je vous souhaite encore beaucoup de belles choses à Salé.
Merci, merci beaucoup et j'espère à bientôt autour de la piste.
Alors, toi t'es une fille, moi je suis un mec. Faut pas se tromper. C'est Rufou Bleu, c'est Théobière, c'est Travail au vaisselle, c'est Barbie ou Action Man. Faut pas se tromper, sinon on est perdu. On sait pas où te mettre. On sait pas dans quelle case tu rentres. Et c'est important les cases, ça nous sert à nous plus tout le temps.
Voilà, autour de cette piste, de cette école de cirque unique au Maroc, la Rose des Vents. C'est à partir de vendredi prochain. On se retrouve dans un instant au menu cinéma et bande dessinée dans Sban Culture.
If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know. More than you think you know about me. More than you think you know me. See you walking in circles. See you talking in circles. See your thoughts running in circles. I walk around all day long following me. The doctor said I was better. I'm a woman of my word. Now you have heard my word.
On fait le ménage du côté de Marrakech, on plie les robes longues et on remballe le tapis rouge. La 18e édition du Festival international du film de Marrakech s'est donc terminée hier soir. 14 films étaient en compétition et il n'y a qu'une étoile d'or, un palmarès qui est à l'image de ce festival marocain qui met en avant la diversité du cinéma mondial. Nathan Chaudet.
Colombie, Tunisie, Chine, Australie ou encore Angleterre, tous les continents ont été récompensés lors de cette cérémonie de clôture. C'est évidemment à l'image du festival. 98 films ont été projetés au total cette semaine. 34 pays étaient représentés. Le grand gagnant cette année s'appelle Nicolas Rincon Gil. Il est colombien. Son film Valley of Souls a décroché l'étoile d'or de cette 18e édition. Le réalisateur le présente comme un plaidoyer pour la paix au sein d'une société colombienne que la guerre civile continue à déchirer. Le film Tlames du réalisateur tunisien Alaeddine Slim a lui décroché le prix de la mise en scène. Ce n'est pas vraiment une surprise. Le film est d'une beauté renversante. Autre prix remis hier, celui du jury. Il a récompensé deux films, le thriller chinois Mosaïque Portrait et le film saoudien Last Visit, qui explore les contradictions de cette société saoudienne. Impossible pour le jury de départager ces deux œuvres. Le jury qui n'a pas non plus été capable de départager les deux actrices du film britannique Lynn plus Lucy. Nichola Burley et Roxane Scrimshaw ont toutes les deux reçu le prix d'interprétation féminine pour leur performance en duo dans ce film. Et pour terminer, le prix d'interprétation masculine a lui été remis à l'acteur australien Toby Wallace pour son rôle dans le film Baby Thief, un film qui arrive à transformer une situation tragique en une douce comédie. Un bel hommage rendu ici au cinéma australien qui, je le rappelle, était à l'honneur pour cette 18e édition.
Voilà, merci à Nathan Chaudet pour ce palmarès du FIFM, Festival international du film de Marrakech. La suite de notre bain de culture, après le 7e art, on va passer au 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée sur les traces de la nouvelle génération de la BD arabe. C'est en ce moment au Maroc une exposition itinérante d'une quarantaine d'artistes, des bédéistes du Maghreb, mais aussi d'Égypte, d'Irak, de Jordanie, de Syrie, des artistes qui s'inscrivent souvent dans la lignée du printemps arabe. Visite guidée dans un instant.
Je me sens pas beau quand tu marches vers moi.
Qu'est-ce que t'es beau quand tu penses à toi.
Non, je me sens pas beau quand tu sais que je sais pas.
Qu'est-ce que t'es beau quand tu dis je crois.
Je crois.
Le soleil est là, le soleil déjà.
Midi, bain de culture avec Florence Blanc.
Merci de nous rejoindre sur Midi, bain de culture avec ce zoom maintenant sur une exposition itinérante. C'est en ce moment au Maroc sur la nouvelle génération de la bande dessinée arabe. Des artistes syriens, irakiens, tunisiens, égyptiens, marocains bien sûr. Ils s'inscrivent souvent dans la lignée du printemps arabe qui évoque la politique à travers notamment le quotidien dans les grandes villes mais aussi les vies intimes. Alors toutes les audaces sont permises dans la forme. Alors on expérimente la tradition du dessin arabe. Ça peut se mêler au manga et pourquoi pas au street art. Une explosion de talent qui a étonné, séduit Jean-Pierre Mercier. C'est l'un des grands historiens de la BD. Il est aussi commissaire de cette exposition qui a tout d'abord été proposée à Angoulême, le temple mondial de la bande dessinée en France, avant de traverser la Méditerranée vers le Maroc au printemps dernier. Jean-Pierre Mercier qui a travaillé sur cette expo après, vous allez l'entendre, un véritable coup de cœur.
On m'a invité pour venir parler de bande dessinée et là j'ai découvert qu'il y avait une production dont on sait peu de choses en Europe et en particulier en France. Ça m'a fasciné dans le sens où il y avait plein de jeunes gens et de jeunes femmes, et ça c'était déjà tout à fait extraordinaire à mes yeux, qui avaient une trentaine d'années, qui étaient incroyablement actifs et qui faisaient des publications chacun dans leur pays et étaient présents sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et je me suis un peu renseigné, j'ai cherché, je suis tombé sur des spécialistes en France, aux États-Unis, un peu partout. Et puis on a commencé à discuter de tout ça. Et avec les contacts qu'on pouvait avoir dans les centres culturels français dans tous ces pays, moi je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme. Je le répète, je ne suis pas du tout un grand connaisseur. Je découvre et je trouve ça passionnant. Il y avait un bouillonnement, mais clairement les printemps arabes les uns après les autres ont permis de libérer un peu la parole et de permettre à certains auteurs d'exister. Alors ils sont très marginaux, mais d'expérience presque historique je dirais, on sait très bien que c'est toujours la marge qui finit par influencer la majorité d'une certaine façon. Il a fallu qu'on sélectionne, on a réuni un comité scientifique qui était souverain et j'aurais demandé de faire des sélections chacun. On est arrivé avec 150 noms et j'aurais demandé de réduire. On a réduit à 40 et c'était un crève-cœur pour tout le monde. Mais c'était absolument passionnant. Enfin, moi, j'ai découvert des trucs absolument formidables. Je suis très content. Mon seul regret étant non arabophone, c'est de voir qu'il y a encore peu de traductions. Il y en a, mais quand même assez peu, et de passer à côté d'un certain nombre d'auteurs. Et là, pour les besoins de l'exposition, on a fait traduire un certain nombre de pages et il y a des choses absolument géniales. De ce que j'ai vu, j'ai vu trois choses. Une tentative de témoigner du réel, de décrire ce qui se passe, la vie quotidienne. Par exemple, chez Naoui, en Égypte, qui est un peu l'homme orchestre de la revue Tuk Tuk, et il décrit ce qui se passe dans la rue. Il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'auteurs le font, Dina Mohamed aussi, enfin voilà. Il y a un jeu aussi sur les traditions de bande dessinée. On va détourner les grands genres de la bande dessinée américaine, par exemple, on va détourner des super-héros, mais on essaie de témoigner. Il me semble que de manière indirecte, c'est une façon d'avoir un propos politique, c'est-à-dire déjà d'écrire les choses comme elles sont, c'est pas partir dans l'imaginaire, raconter des histoires, etc. Mais essayer de porter un témoignage sur ce qui se passe. Il y a des auteurs qui, par exemple, vont décrire la ville, y compris dans ses aspects les moins plaisants, les quartiers pauvres, les décharges, voilà, la misère, ce genre de choses. Ça, c'est la première chose, il me semble. La deuxième, c'est relativement révolutionnaire en bande dessinée, ça l'est moins maintenant en Europe, mais c'est de parler de soi, de l'histoire de sa famille, de où on vient, de qui on est, etc., etc. Ça rejoint ce qu'on appelle la bande dessinée de l'intime ou l'autofiction ou l'autobiographie qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit au Japon, qu'on voit en Europe. Mais il y a énormément de variations sur cette dénomination de bande dessinée de l'intime. Par exemple, Samandal avait fait un numéro sur sensualité, sexualité, il y a quelques mois, en invitant en plus des auteurs européens, Lisa Mandel, enfin des gens comme ça. Moi, j'ai été un peu bousculé dans mes clichés, je trouve. Dans mes a priori, j'ai trouvé que c'était une expérience absolument formidable, ne serait-ce que pour ça. Voilà. Et puis la troisième chose qui me semble extrêmement importante, c'est un jeu sur la bande dessinée elle-même, c'est-à-dire sur la forme. Jouer sur les types de narration, jouer sur la couleur, le noir et blanc, expérimenter au maximum sur ce qu'on peut faire, sachant que beaucoup de ces auteurs travaillent directement pour la toile, pour le net. Et là, on voit des choses absolument, absolument formidables. Enfin, il y a des avancées, il y a des trouvailles que moi je trouve formidable, vraiment formidable. Il y a de très très bons auteurs. Voilà.
Bain de culture L'expo.
Jean-Pierre Mercier sur Médien, commissaire de cette exposition itinérante sur la nouvelle génération de la bande dessinée arabe de Angoulême, je vous le disais. Elle est arrivée au Maroc, c'était au printemps dernier. Elle est en ce moment à l'Institut français de Oujda. Ça se passe jusqu'au 20 décembre. Alors Oujda, c'est peut-être un peu trop loin pour vous. Eh bien, cette expo va au-devant du grand public marocain en prenant, mais oui, le train. Eh bien, nous serons à la gare de Rabat Agdal dans un instant. Culture, ils sont algériens, marocains, syriens, irakiens ou bien jordaniens. Ils sont trentenaires, ils sont surtout bourrés de talent. Ce sont les auteurs de la bande dessinée arabe de nos jours. Une exposition leur rend hommage et surtout, surtout nous les fait découvrir. Quelle chance c'est en ce moment. C'est une exposition itinérante au Maroc et la bonne idée, et c'est une première, c'est que cette exposition vient à vous à partir de la semaine prochaine dans la gare TGV de Rabat Agdal, une initiative de l'Institut français du Maroc. Jean-Pierre Maoué en est le directeur général adjoint.
Midi, hein, bain de culture avec Florence Blanc.
Moi je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé. L'idée de dire, on va faire découvrir cette nouvelle génération de bédéistes arabes, donc au Maroc, hein, on sait qu'elle est itinérante en ce moment, mais vous avez spécialement choisi ce lieu, la gare de Rabat, donc à partir de mardi, et un petit peu comment ça se passe, si vous voulez, pour faire accepter, entre guillemets, d'aller voir une exposition dans une gare. Je ne pense pas que ça se fasse beaucoup au Maroc.
Non, c'était, semble-t-il, une première pour le Maroc, en tout cas avec notre partenaire l'ONCF, qui attendait ce type de proposition, d'après ce qu'on a pu comprendre au début quand on les a contactés. C'est de donner la possibilité d'animer leurs espaces, qui sont quand même, ils ont 44 gares, je crois, animées au total sur le territoire marocain. Et ces gares qui sont quand même des belles réalisations architecturales, il faut aussi les animer. Donc lorsque nous les avons rencontrés il y a plusieurs mois, leur disant voilà, nous on pourrait peut-être les animer à travers des expositions, mais aussi peut-être à travers des projections cinématographiques ou peut-être même un jour des petits concerts sur les parvis, ils ont trouvé l'idée intéressante et donc on leur a proposé dans un premier temps la bande dessinée.
D'accord, et là après, bon après évidemment ça suit son cours, c'est un petit peu à mettre voilà. En place. Qu'est-ce qu'on va voir mardi 10 décembre donc à la gare de Rabat, la gare Agdal donc, qui accueille bien sûr le TGV?
Alors, ce qu'on va voir, c'est donc l'exposition de la bande dessinée, la nouvelle génération de la bande dessinée au Maghreb, avec une quarantaine d'auteurs présentés. Mais en plus, c'est toute la médiation culturelle qu'on a mis en place autour. C'est d'abord rendre la culture accessible à tout le monde. C'est-à-dire que lorsque l'on met en place des expositions dans des espaces comme des musées, il y a des fois un frein. Dans des galeries, il y a des fois un frein pour les publics de rentrer dans ces espaces qu'ils considèrent un peu, pas pour eux, mais plutôt pour des élites. À partir du moment où on met cette exposition dans un lieu public comme une gare, tout le monde peut avoir accès à cette exposition. Sur la gare d'Agdal, on parle de 17 000 voyageurs par jour. Donc potentiellement, il y a 17 000 voyageurs par jour qui peuvent se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette exposition ?» et qui vont découvrir cette exposition. C'est un parcours libre. Par contre, on a mis en place de la médiation culturelle, comme on l'a fait avec l'exposition impressionniste qui était présentée au musée Mohamed VI. C'est qu'on invite des écoles à venir voir cette exposition. Et là, ils sont encadrés par des médiateurs. Ils ont un livret pédagogique à remplir et donc il y a tout un parcours de 45 à 1 heure avec les médiateurs pour découvrir le monde de la bande dessinée à travers ce livret pédagogique.
Ça veut dire que ces enfants donc sont déjà formés, enfin vous les préparez en tout cas à venir voir cette exposition.
On les prépare un petit peu et puis on va dire qu'ils ont une visite active. Vous savez, un peu sous la forme d'un jeu de piste, qu'on trouve de l'information, on leur pose des questions, il faut qu'ils découvrent les panneaux, qu'ils les regardent avec attention. En plus, l'avantage de cette exposition, c'est qu'elle est présentée en 3 langues.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est quand même un plus par rapport à ce qu'on propose d'habitude. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a à peu près, on attend entre 800 et 900 enfants qui vont venir découvrir cette exposition au cours des 3 semaines.
C'est énorme quand même ça. Et ces enfants, ils viennent d'où ? Ils viennent près de Rabat
Ils viennent près de Rabat, oui. Non, ils viennent près de Rabat. C'est des écoles privées, des écoles publiques marocaines. Il y a aussi des associations. Il y a l'AMSAT. Donc voilà, c'est des publics avec lesquels on a l'habitude de travailler. Mmh. Puisque par exemple, pour l'exposition impressionniste, on a reçu 1000 enfants pour cette exposition. Alors en plus, parmi ces 900, on va dire, il y a quelques chanceux.
Oui, visiblement, il y en a qui vont avoir. Voilà. Ils vont prendre le train.
Ils vont prendre le train. Alors là, l'idée, c'était aussi d'offrir à ces jeunes enfants, parce qu'on parle de jeunes enfants, on va dire des adolescents, pardon. Oui. S'ils m'entendaient, ils diraient non.
Non, des ados.
Des ados. On va leur proposer de prendre le train. Donc c'est aussi une expérience de prendre cette ligne à grande vitesse entre Rabat et Tanger. Mais on ne va pas les laisser tranquilles, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que dans le train, ils vont aussi avoir des choses à faire. Ils vont avoir un parcours immersif, c'est-à-dire qu'on va leur proposer des films d'animation en 3D. On dispose de lunettes pour se pour
là, va falloir les tenir, là. C'est bien,
voilà.
Ça.
Et en parallèle, il y aura aussi un atelier bande dessinée, qui rentrera un peu plus dans la bande dessinée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bulle dans une bande dessinée, la place de l'image, la place du texte dans une bande dessinée. Ce sera donc une animation d'une demi-heure, puisque je crois que c'est 1h10 à peu près dans le train. Et puis, une fois arrivé à Tanger, eh bien, dans la gare, il y a aussi des choses qui les attendent. Certains auront un atelier de breakdance, il faudra qu'ils se défoulent. Et les autres auront un atelier toujours un peu autour de la BD, mais plutôt autour du dessin. Voilà. Et ensuite, ils reviendront tranquillement. Je crois qu'on va les laisser tranquilles au retour. Mais on espère que ça sera pour à la fois une découverte du LGV, ça je pense que c'est quand même bien, mais aussi une première initiation à la bande dessinée, à une expérience immersive. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que l'on veut mener de plus en plus. C'est une de nos politiques, un de nos axes stratégiques dans les années à venir. C'est d'abord rendre la culture accessible, renforcer la médiation culturelle, aller en fin de compte vers des publics qu'on a du mal parfois à approcher à travers notre programmation classique.
Et oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que effectivement, la bande dessinée, là, c'est une chance énorme, hein, cette nouvelle génération de la bande dessinée arabe, avec ces artistes viennent du Maroc, hein, bien sûr, il y a aussi d'Algérie, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye. C'est assez engagé, quelquefois, c'est assez personnel.
C'est très engagé, des fois.
C'est très engagé. C'est une chance, donc, pour ces adolescents de pouvoir découvrir dans un lieu de passage, parce que je crois que la BD, on en lit pas beaucoup au Maroc, sinon.
On n'a pas beaucoup de statistiques, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on lit beaucoup. Alors, il faut savoir aussi qu'en 2020, c'est l'année de la BD en France. Ça a été voulu par notre ministère de la Culture. Donc, c'est aussi pour nous un moyen de lancer l'année de la BD, parce qu'on va avoir beaucoup plus d'animations autour de la BD en 2020. Donc, c'est aussi une manière de lancer l'année de la BD en France, au Maroc, Voilà, puisque par exemple pour le Salon du Livre de Casablanca, on aura deux thèmes, le roman policier et la bande dessinée. Et tout au long de l'année, on aura des activités autour de la bande dessinée. On travaille sur un projet avec l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan. Donc on a vraiment des projets intéressants autour de la bande dessinée.
D'accord.
C'est aussi une manière de lancer cette saison.
Écoutez, je vous remercie Jean-Pierre Maoué. En tout cas, merci à ceux qui aiment la BD de leur faire prendre le train ou pour ne pas citer voilà. Un film connu. Ça commence le 10 décembre et ça se terminera donc dans cette belle gare de Rabat à Agdal. Ce sera jusqu'au 20 décembre. Donc cette exposition où tous les clients donc, du train pourront s'arrêter. Attention à ce qu'ils ne le ratent pas hein, si jamais ils sont sur le quai et qu'ils essaient de regarder.
On ne sera pas responsable. Hein, sera je pas précise, responsable. Tu ne seras pas responsable.
Voilà, en tout cas, merci de cette belle initiative que vous avez développée avec nous sur Média. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.
C'est ainsi que se termine ce bain de culture avec, vous l'avez entendu hein, pendant toute cette heure, de nombreux rendez-vous, la jeune BD arabe, donc entre Oujda et la gare de Rabat, et puis l'école de cirque Chemsi de Salé. Ce sera tout le week-end prochain. D'ici là, eh bien, une très bonne semaine.
De sourire dehors à Angoulême, un chasse-pline Melchior, Paris s'échelle, découvrir ton corps, depuis la scène du sombre décor, Lucrèce et Rennes. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas, le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas. Le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage est de l'or pour se perdre. I need you so, oh, I won't let you go, oh, oh. I need you so. Le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts sur Saint-Hilaire. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas, le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas. On s'était dit des choses. Sur nos ronds, ce lilas.